J'ai envisagé de quitter Israël ces jours-ci, et vous savez à quel point c'est difficile pour un Israélien de quitter le pays maintenant. C'est la réunion de ce soir. Je dois ajouter aussi que c'était joint à la semaine qui se passe actuellement au centre Rachi, et où il y a le début des commémorations du 500e anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il fallait des événements de cet ordre pour nous inciter à venir. Eh bien, je vais aborder très rapidement, dans un premier point, un rappel très succinct de ce que nous avions vu l'année dernière au sujet de ce thème de l'identité d'Abraham l'Hébreu qui est à l'origine de l'histoire d'Israël. Et nous avions vu que, contrairement à un cliché très répandu chez les historiens, et parfois chez des historiens connus comme compétents, Abraham est un Hébreu, selon le témoignage du texte de la Bible, un Hébreu qui se trouvait dans la civilisation de Mésopotamie de ce temps et dans la région de la ville connue sous le nom de Ur-Kasdim. Si vous consultez des cartes anciennes pour les confronter aux cartes actuelles, vous aurez la surprise de découvrir que Ur-Kasdim se trouve dans la région de la frontière entre l'Irak et le Koweït, à côté d'une ville à laquelle les textes prophétiques font allusion, sous le nom de Basra ou Bosra en hébreu, et qui s'appelle Bassora dans la géopolitique contemporaine. Et comme pour dire que nous sommes en un temps où une certaine boucle tend à se reboucler, et que là où cela a commencé, il se passera ce qu'il se passera. Eh bien, pardon, mais le micro ne marche pas. Non, c'est pas tellement ça, c'est pas. Bien, ça va mieux? Il se balade là. Vous entendez mieux? Bon, j'espère qu'il y a. Non, mais si vous faites des chocs, il y a des échos. Ah, très bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'échos. Je disais donc que notre histoire a commencé avec un homme que la Bible nomme Abraham l'Hébreu. Et cette identité hébraïque, eh bien, nous avons essayé l'année dernière de la situer à la fois historiquement et géographiquement, et en relation avec le pays d'Israël, qui à l'époque se nommait le pays de Canaan parce qu'il avait été envahi par les Cananéens, par différents peuples qui sont groupés sous la rubrique d'identité Canaan dans le texte de la Bible, mais que la Bible nomme le pays des Hébreux. Et ceci pour indiquer que dans la contestation pratiquement universelle contemporaine sur la question du lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, il est nécessaire en tout cas que les Juifs, qui sont les héritiers des Hébreux, retrouvent cette mémoire de leurs origines et aient la conscience de leur légitimité absolue en tant qu'un peuple relié à sa terre. Je n'entre pas dans les détails, mais vous percevez les implications de tout ordre qu'il y a autour de ce problème. Nous avons expérience de doutes, de perplexités de Juifs qui parfois devraient être au courant de leur propre source, parce que c'est la Bible, notre carte d'identité, et qui malgré cela ayant été imprégnée de ces clichés, entre guillemets, d'antisémitisme subtil, venant parfois d'autorités universitaires, craignent de porter atteinte à la légitimité de notre peuple. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, qui est en rivalité, en contestation, en interpellation avec Israël. C'est une histoire qui ne commence pas de notre temps, comme l'a indiqué notre ami le président Kanovitch. C'est une histoire qui nous est racontée par la Bible déjà au temps du commencement, il y a près de 4000 ans, au temps d'Abraham l'Hébreu. C'était, si je me souviens bien, assez essentiellement le thème de l'étude de la dernière fois. C'est bien cela, monsieur? Alors, je voudrais aborder une suite de cette analyse Et je vous indique d'ailleurs que ce sujet comporte une étude qui pourrait durer très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas en une fois que nous pouvons épuiser les dimensions et la problématique de cette manière d'être homme que la Bible nomme Israël et qui prend sa source dans l'identité hébraïque. Je dirais simplement une petite parenthèse en passant. Nous, juifs, nous nous sommes connus comme juifs dans la diaspora. Les juifs, ça veut dire les judéens. Et nous étions d'origine hébraïque, mais avec le long temps de la diaspora, nous avons fini par perdre de vue l'identité essentielle de l'hébreu qu'il y a en nous, juifs. Pour formuler cela de façon schématique, les juifs sont d'origine hébraïque. Et ils ont risqué d'oublier leur origine. Il y a eu le risque d'une identité seconde, l'identité juive de diaspora, se connaissant comme sui generis et découvrant avec étonnement, dans la contemporanéité que nous vivons, qu'une partie du peuple juif redevenu hébreu leur pose un problème d'identité, c'est-à-dire Israël des Israéliens. Et la phrase suivante serait de dire tout simplement que les Israéliens sont des juifs redevenus hébreux et qu'ils sont des hébreux d'origine juive. Et ce n'est pas du tout une boutade. Il y a là deux problèmes qui ne sont pas exactement les mêmes, qui ne sont pas forcément les mêmes. Les Juifs, dans leur quête d'identité, doivent retrouver leur origine hébraïque, et les Israéliens, en tant qu'ils assument leur identité, ne doivent pas oublier leur origine juive. J'espère qu'ils ne seront pas gênés par les bruits, parce que je suis obligé de m'interrompre chaque fois qu'il y a du bruit. Eh bien, fermez la porte, je pense que ce serait la meilleure des choses. Comme disait Musset, je crois, aucune porte. Pour revenir en tout cas au sujet, je voudrais dire très brièvement que l'humanité entière a été traversée par cette identité hébraïque. Je le dirai schématiquement de la manière suivante. En Occident, vous avez un monde culturel, spirituel, religieux considérable qui est la chrétienté, qui à travers 2000 ans a touché un nombre incommensurable de consciences, lesquelles, dans leur équation personnelle propre, dans leur bonne foi propre, se sont pris pour Israël, se réclament des prophètes hébreux, des patriarches des hébreux, d'une certaine manière de la terre des hébreux, qu'ils considèrent comme leur terre sainte, et finalement, vous savez à quel point le monde de la chrétienté, quelles que soient les remises au point par rapport aux juifs et au judaïsme que la Shoah leur impose, que l'État d'Israël leur impose, est encore en rivalité d'identité avec l'Israël des juifs. Et avec un problème qui est encore en suspens, parce qu'ils découvrent, dans un traumatisme considérable, que peut-être ils le découvrent 2000 ans après, que peut-être ce sont les juifs qui sont Israël. Alors si ce sont les juifs qui sont Israël, qu'est-ce que les chrétiens? Et oui, ça c'est d'un côté du monde. De l'autre côté du monde, c'est la rivalité de l'islam. Et là encore, il y a tout un pan de l'humanité, considérablement ample du point de vue du nombre et de sa quantité, et de son poids politique actuel, et de la menace qu'il représente, non seulement pour Israël, mais ça vous lisez dans les journaux ce qui se passe, et qui, à leur manière, se réclament aussi des prophètes d'Israël, des patriarches d'Israël, des rois d'Israël et de la terre d'Israël, qu'ils considèrent non seulement comme leur terre sainte, mais comme une terre arabe. Et par conséquent, nous, ce tout petit peuple, le peuple juif, sommes peut-être les moins bien placés, en tant qu'héritiers des Hébreux, pour percevoir, peut-être par réaction de modestie d'ailleurs, pour percevoir l'impact considérable que l'identité hébraïque a eu dans l'histoire de l'humanité, au point où nous nous retrouvons 4000 ans après, de nouveau en but aux interpellations que la Bible raconte lorsqu'elle raconte l'histoire de la famille d'Abraham, à partir du moment où Abraham décide de décrocher de la civilisation mésopotamienne et de rentrer au pays des Hébreux. Ce sont des choses très analogues que les générations actuelles du peuple juif par rapport à Israël vivent. Cela nous est raconté dans la Bible à l'échelle de l'histoire des patriarches. Ce sont des sidrotes d'ailleurs que nous sommes en train de lire ces Shabbatot. Nous sommes ce peuple privilégié qui peut lire son histoire dans les journaux et qui lit les journaux en lisant la Bible. Et pour revenir donc à notre sujet, il est quand même nécessaire de comprendre quelle est la clé de cet impact de l'identité hébraïque dans l'histoire de l'humanité, au point que le monde entier, quels que soient ses problèmes, réclame Jérusalem comme étant sa capitale, et à une condition qu'elle ne soit pas celle des Hébreux, enfin des Juifs. C'est tellement énorme qu'on a l'impression que l'humanité contemporaine n'a même pas le sens d'humour minimum qu'il faudrait pour remettre les choses à leur proportion. Je crois qu'effectivement, l'humanité contemporaine manque d'humour. Un tout petit peuple et des problèmes aussi énormes autour. Et je ne les énumérerai pas, nous serons là encore demain matin, mais vous percevez, si vous voulez, les dimensions et l'envergure du problème qui est posé à l'histoire des hommes dès qu'Abraham, sortant de Kazim, se dirige vers la montagne de Moria. L'Erlecha s'est dit en sortant de Kazim, mais c'est dit pour la montagne de Moria et que l'histoire d'Israël va commencer en ce temps-là. Eh bien, le Midrash s'interroge sur la raison pour laquelle le texte de la Bible tient à dénommer Abraham, Abraham l'Hébreu, alors que nous connaissions déjà les généalogies qui ont engendré Abraham, et que nous savons qu'Abraham est descendant de Shem, un des trois fils de Noach, qui a été le fondateur de la civilisation des Sémites, à travers un des patriarches de l'Antiquité qui se nomme Haéver. Le mot hébreu en hébreu signifie descendant de Haéver, Ivri en hébreu. Par conséquent, puisque nous savons déjà cela par les textes précédents, nous savons que, vous le lisez à la fin de la paracha de Noach, nous savons que Abraham, fils de Terach, est descendant de Haéver. Pourquoi le texte de la Torah, en nous racontant un épisode de l'histoire d'Abraham, lorsqu'il doit intervenir dans une guerre qui oppose 4 rois à 5 rois dans le pays de Canaan, il y intervient pour sauver son neveu Lot, qui avait été fait prisonnier, et ça se trouve dans la Genèse, au chapitre 14, verset 13, la Torah nous dit que on est venu annoncer à Abraham l'Hébreu que Lot était prisonnier. Le Midrash s'interroge parce que au niveau du pshat, c'est-à-dire du sens direct du terme, nous savons déjà que ça veut dire en hébreu, ça veut dire descendant de Haéver. Alors le Midrash donne un certain nombre d'indications d'harmonique de sens que nous avons d'ailleurs étudiées l'année dernière, si je me souviens bien, si nécessaire on peut y revenir, mais il nous renvoie en particulier au verset qui va définir qui est Haéver. Quelle est cette identité qui prend son nom de l'ancêtre Haéver, et pourquoi cette identité a-t-elle une telle importance dans l'histoire des hommes? Voilà donc la première question que je voudrais aborder. Eh bien, Haéver est le descendant de Shem, de la génération immédiatement antérieure à la grande diaspora des nations, qui est le résultat de ce qui nous est raconté dans l'épisode de la tour de Babel. Et nous apprenons du récit de la Bible que, avant la tour de Babel, je ne reviens pas sur le détail de ce qui s'est passé, vous avez cela en tête depuis le Talmud Torah, bien sûr, eh bien, avant la tour de Babel, avant cette époque, que nous appelons dans la tradition Dora Pelaga, la génération de la dispersion, j'en profiterai tout à l'heure, mais je vous l'ai dit pour ne pas risquer d'oublier, qu'il faut réfléchir sur la notion de diaspora, et alors que c'est encore un cliché des sociologues, cette fois, plus que des historiens, alors que la conscience juive est habituée à l'idée que le fait de diaspora s'attache à l'identité juive, qu'un juif se définit par le fait de dispersion et d'exil, le récit de la Torah nous dit exactement l'inverse. La diaspora, c'est la diaspora des nations. À partir de l'unité d'identité humaine, l'unité humaine éclate en différentes nations qu'on appelle les goïms. Ce mot, étymologiquement, signifie les nations. Avant le temps des nations, il y a eu le temps de l'humanité une. Et c'est à partir de Babel que l'universel humain a éclaté en nations. Retenons d'abord cette première indication. Alors, précisément, je vous lirai tout de suite le verset, Héver, c'est le descendant de la lignée de Shem avant la Pélaga, avant la grande dispersion. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la Torah énumère les 70 nations qui sont le résultat de l'éclatement de cette unité de l'universel humain, il n'y a pas Israël. Il y a il y a les Tzéhéta et Hever, c'est-à-dire les descendants de Hever. Il n'y a pas encore Israël. Israël apparaîtra plus tard, à partir d'Abraham, et à la suite d'une sélection d'identité. Dans cette recherche de cette identité hébraïque épurée, après le temps de son propre exil, au temps de Jacob, petit-fils d'Abraham, qui prend le nom d'Israël. D'une certaine manière, c'est en Jacob qu'Abraham devient Israël. Et lorsque plus tard, pour des raisons propres à la vocation d'identité de ce peuple d'Israël, arrive le conditionnement, disons, des péripéties de la diaspora d'Israël à proprement partie, alors cette dispersion d'Israël est seconde et vient se greffer sur la dispersion humaine avec une finalité messianique que les prophètes d'Israël expliquent, ce qui est encore un autre sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de la diaspora pour l'identité humaine, c'est le propre des goïms, ce n'est pas le propre d'Israël. L'identité de diaspora du peuple d'Israël est dérivée, elle est seconde, elle est provisoire, même si elle dure longtemps. C'est lorsque l'identité d'Israël vient se greffer sur la diaspora humaine en vue de la réunifier dans le retour au pays des Hébreux. Mais de ça, c'est un autre sujet, donc, s'il est nécessaire tout à l'heure, j'y reviendrai. Et là, comme vous le savez, nous sommes en conflit d'autres courants religieux, en particulier la manière dont la chrétienté définit l'exil des Juifs comme une malédiction, une punition sans fin, l'islam, comme, de manière assez analogue mais différente d'ailleurs, comme une disqualification de la vocation d'Israël, et puis aussi, je dois dire, certains courants juifs, religieux ou non, qui s'instaurent dans cette identité provisoire qu'ils voudraient voir comme sui generis et définitive, tombant dans le piège que les rivalités chrétiennes ou islamiques leur ouvrent. Peut-être nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors voici ce que dit le verset de la Bible concernant Hever. Il s'agit du verset 25 du chapitre 10 de la Genèse. Où à Hever, Yulat Shnebanim, et à Hever furent enfantés deux fils. Shema Echad, le nom du premier, Peleg, retenez ce terme, qui Beyama, car en son temps, Niflega Haaretz, la terre s'est dispersée. Et suit dans le chapitre 11 la description de cette dispersion des 60 nations de base, et c'est là qu'apparaît pour la première fois cette catégorie. Cette dispersion s'est faite chez les familles humaines, selon leur pays, selon leur nation, goïm, selon leur langue. Donc, l'identité hébraïque n'est pas une parmi les identités humaines formellement analogues. C'est l'identité de l'homme avant la dispersion humaine, avant la Pelaga. C'est l'identité de l'homme un. Donc, c'est une identité qui garde en elle-même ce qu'est l'homme authentique, tel que Dieu l'avait créé. Lorsque, par exemple, la Gemara dira, en s'adressant à Israël, « Atem kruim Adam, ve en umot haolam kruim Adam », il y a une allusion à ce que nous dit ce verset. Hever n'est pas n'importe qui, le verset le dit très clairement, il est le père de Peleg, et c'est avec Peleg que la Pelaga, que la diaspora, que la dispersion de l'identité humaine a commencé. Et donc il était évident, il devient compréhensible, que lorsque les nations du monde, qui chacune d'entre elles ont recueilli un aspect partiel du génie humain, génial à leur manière, mais de manière partielle, lorsque les nations du monde rencontrent l'identité hébraïque, alors elles rencontrent l'espérance de l'homme un, l'espérance de l'universel. À chaque étape de la civilisation humaine, cette espérance se formule dans des indices d'espoir messianique différents, mais il est bien évident que dans la rencontre de l'hébreu, alors il y a la rencontre de l'espérance messianique fondamentale, reconstituer l'universel humain, l'unité humaine, telle qu'elle se trouvait avant que ne commence le temps des empires. Les empires, c'est-à-dire chaque nation éclatée à tour de rôle, qui tente de prendre en charge ce rêve de la reconstitution universelle humaine, mais qui échoue comme par fatalité, parce que le véhicule existentiel n'est pas adapté à l'idéal, alors que l'idéal est authentique, l'homme universel, l'homme un, le véhicule sociologique est trop partiel pour réussir, ce qui fait que toute l'histoire de ces rêves de l'universel, chez les goïms, chez les nations, ont toujours échoué dans les impérialismes. Les impérialismes, c'est-à-dire une manière d'être homme en particulier qui tend à s'imposer aux autres, alors que le rêve, que le but, que l'objectif était idéalement authentique, refaire l'universel humain. Je donnerai un exemple que nous sommes familiers, parmi d'autres, mais il n'y a pas d'exception. La Révolution française, le rêve de l'universel des fondateurs de la Révolution, idéologique en tout cas, de la Révolution française, est authentique. Lorsqu'on lit les textes, et surtout les philosophes qui ont précédé cela, c'est surtout chez les encyclopédistes, lorsqu'on lit l'idéal de la Révolution française, on rencontre un idéal authentique de l'universel humain. Quelques années après la Première République, c'est l'Empire français. Et ce n'est pas qu'une ironie de l'histoire, c'est une fatalité. Après la Constituante, eh bien c'est l'Empereur, de nouveau, avec le symbolisme exactement calqué sur les empires de l'Antiquité. Et encore une fois, il n'y a aucune exception, et je crois que nous vivons un temps assez exceptionnel, exception exceptionnelle, j'ai pas fait exprès, avec l'effondrement de l'Empire soviétique. Lorsque la Révolution d'octobre a repris à la Russe le rêve de l'universel humain, elle a voulu fonder l'universel, ce qu'elle a fondé, c'est un empire. Et cet empire, finalement, s'est écroulé sous nos yeux de notre temps. Il y a donc dans l'identité éveil quelque chose de particulier. Dès l'origine, dans le principe, c'est une identité à part des autres identités humaines. Voilà l'indication très directe de ce verset que je viens de vous citer, rappelez-vous, c'est le verset 25 du chapitre 10 de la Genèse. Pourquoi il était particulier ce verset? Parce qu'il s'agit d'une généalogie à partir de Shem, où la Torah se borne à énumérer les noms de l'homme à chaque génération. Elle ne donne une explication du nom qu'à propos de Haéver, pour dire qu'il est le dernier à être l'homme un. Après lui, Peleg. Peleg, Plaga, et vous avez en hébreu moderne le mot de Miflaga, qui veut dire un parti, cela éclate en différentes dimensions, qui gardent la nostalgie du tout de l'un, mais qui ne peuvent réaliser que le caractère partiel de ce qu'elles sont au niveau de l'histoire des sociétés. Et voilà, l'histoire dans laquelle nous sommes plongés. Depuis le temps de la tour de Babel, il y a un rêve messianique qui passe par les Hébreux et l'histoire des empires qui est l'histoire des nations, qui est l'histoire des goïms. Tout se passe comme si nous sommes arrivés en un temps historique qui est le bilan de cette histoire, avec le retour des Juifs sur la terre des Hébreux de notre temps, après le temps du quatrième empire selon la chronologie biblique, qui est l'empire de Rome, et il ne faut pas oublier, on avait indiqué la déclaration de Balfour, c'est la même année de la fondation de l'Empire soviétique et de la déclaration de Balfour, en plus. Mais il ne faut pas trop réfléchir aux coïncidences, ça donne le vertige, ça donne des cauchemars, on ne dort pas la nuit, comme il faut se lever le lendemain matin pour aller à la prière et au travail, à pas trop réfléchir à ces coïncidences. Laissez les coïncidences de côté, d'autant plus qu'elles sont plus que des coïncidences. Je reviens au sujet. C'est que nous avons là une identité, celle de Hever, qui est entrée dans un exil. Je ne sais plus si j'en ai parlé l'année dernière. Qu'est-ce que faisaient les Hébreux en Mésopotamie? Au fond, la question n'est pas plus mystérieuse que de se demander aujourd'hui, et qu'est-ce que font les Hébreux en Australie? Ou à Trifouli les oies cachées? En tout cas, pour revenir à notre sujet, eh bien, c'est un fait que l'identité hébraïque est entrée dans une phase récessive. Elle est devenue araméenne au temps des Chaldéens, un peu de la même manière que les Juifs au temps des Romains. Et puis, Abraham prend l'initiative de mettre fin à cet exil échoué d'Ur-Kasdim, le Midrash nous raconte que ça s'est terminé par une Shoah épouvantable, à la manière même des Shoah, qui n'est pas celle plus réelle, que les égoïs nous imposent, par le feu. L'Inquisition aussi, c'est une Shoah par le feu, les bûchers de l'Inquisition. Et le Midrash raconte que Ur-Kasdim, ça signifie la fournaise d'Ur-Kasdim, où les Hébreux étaient jetés lorsque le temps de la sortie d'exil est arrivé, une famille de rescapés, la famille d'Abraham. Une des dimensions de cette identité hébraïque que je voudrais suivre avec vous ce soir, c'est l'identité frère. On remarque une chose, que dans le récit biblique, après le meurtre de Abel par Caïn, dès l'origine, le mot de frère, le terme de frère disparaît du récit. Tout se passe comme si, dans cette vision apparemment pessimiste mais très réaliste, qui nous explique que le fait de société est fondamentalement une rivalité des personnes entre elles qu'il faut évacuer de telle sorte de fonder la cité, eh bien, la cité est fondée par le meurtre, sur le meurtre du frère par le frère. Je vous donnerai une analogie avec le mythe romain de la fondation de Rome. Là-bas aussi, il s'agit de deux frères, et l'un assassine l'autre, et c'est sur le meurtre du frère par le frère que Rome est fondée, mais Rome s'en félicite. Le droit qui fonde la cité a pour mythe originel dans la tradition romaine le meurtre de, je ne sais plus lequel c'est des deux, mais enfin, c'est réciproque, Rémus et Romulus, qui a tué l'autre, peu importe, les Romains entre eux. Eh bien, mais vous voyez la différence, Rome s'en félicite. C'est comme ça qu'on fonde la cité. Le récit biblique décrit ce problème de la rivalité des sujets dès que deux sujets sont en présence, et c'est le problème insoluble du fait social à qui il faut imposer un ordre pour que la coexistence soit possible, mais là, la Torah condamne le meurtrier. Oui, à différence de mentalité. Or, dans le récit de la naissance de ces deux frères qui fondent la société, Caïn, c'est le fils attendu, mais Abel est nommé le frère. Et il a la charge du frère, et la vocation du frère, il deviendra le berger, celui qui s'occupe d'autrui, et le berger, c'est ce que le récit biblique cherche. Et qui peut être berger de telle sorte que l'alliance soit contractée avec lui? On cherche qui sont les bergers, ils seront les prêtres. En français, ils seront le peuple de prêtres. Le peuple de berger, c'est le peuple de Mamlechet Kohanim et Golkadosh, le peuple sacerdotal. Et en français, nous sommes aidés par le terme de pasteur. Mais un berger, c'est un pasteur, c'est pas un curé, mais enfin, c'est presque. Vous avez compris un peu. Eh bien, effectivement, nous voyons ces récits parallèles qui montrent que le souci de Dieu, dans sa recherche providentielle de l'interlocuteur de l'Alliance, cherche les bergers. Il y a l'épreuve des bergers. Et ils sont tous bergers, les patriarches. Et Moïse est berger. Et Moïse, comme Joseph, et celui qui recherche ses frères. Chaque mot du texte est important. David, plus tard, remplace Saül, parce que David est le berger. Et dans les évangiles, on n'est pas là en réunion de confrontation, mais ça vaut la peine de savoir. Et dans les évangiles, on cherche les pêcheurs, pas les pêcheurs qui font des péchés, les pêcheurs à la ligne, okay ? On pêche les âmes. Alors que dans la Torah, on cherche les frères. Et ce sont deux visions religieuse radicalement différente. Vous connaissez ce thème-là. Eh bien, effectivement, nous verrons que le mot de frère revient dans le récit avec Abraham. Et non seulement le mot de frère, mais le mot de sœur. Et c'est lorsque le patriarche, deux fois dans l'histoire d'Abraham, une fois dans l'histoire d'Isaac, dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Alors je voudrais très brièvement aborder ces deux points. Quelle est l'identité frère dans l'identité hébraïque? Pourquoi il y a tant de rivalités qui interpellent le frère? Et deuxièmement, que signifie le fait que le patriarche dit de sa femme, elle est ma sœur? C'est, comme je vous l'ai indiqué, une des dimensions de cette identité hébraïque, il y en a d'autres, c'est une des lignes de lecture. Je voudrais commencer par une ligne de lecture de la recherche du frère qui aime le frère, à travers le récit du mariage des parents, depuis l'origine de l'histoire de l'humanité, en flash dans les récits bibliques. Je me base là-dessus sur un enseignement du Rav Levi Nachmani de Jérusalem et aussi sur une formulation de Madame Amadou Lévy Valency, aussi de Jérusalem. Je n'aurai pas le temps de dire ce qui revient à l'un, ce qui revient à l'autre, ce qui vient directement des sources du Midrash, du Shla, du Zohar. C'est une analyse formelle, mais je tenais à les citer parce que chacun d'entre eux, le Rav Levi Nachmani, un grand kabbaliste de Jérusalem, ou Madame Amadou Lévy Valency, qui est un grand professeur de philosophie à Jérusalem, ont vu, chacun à leur manière, ce qui nous est indiqué par les textes prophétiques à ce sujet. Si c'est nécessaire, tu me le rappelleras, je lirai le début d'une Haftara qui dit essentiellement cela tout à l'heure. Et bien voilà, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais vous me direz si c'est suffisamment clair. On prend dans l'histoire du premier homme quelques indications de base de ce qui nous frappe dans le récit de l'histoire du premier homme. Le premier homme et la première femme ne se parlent pas. C'est étrange. Ils ne se parlent pas. Sauf pour des consignes de cache-coute. Ça tu manges, ça tu manges pas. Vous avez remarqué ça? Ça c'est l'humour biblique. Et en plus, Rashi cite un midrash qui dit que Abraham était, Adam Arishon, était mahmir, il avait dit trop dans son interdiction. Le serpent en a profité, vous connaissez cette histoire. Vous l'étudiez, vous connaissez tout. Donc, je ne reviens pas dans le détail. Bon, ils ne se parlent pas. C'est bizarre. Nous verrons pourquoi. Et puis, la Torah ne dit pas qu'ils s'aiment. Certainement qu'ils se sont aimés. Mais la Torah ne dit pas. Elle va le dire d'autres. C'est donc qu'ils se sont aimés, mais pas à un niveau où la Torah dit, où la Torah parle. Et puis on ne voit pas que Adam ait travaillé dans le sens hébreu, avoda, obtenir par une œuvre, par un ouvrage, par un effort, par un mérite, sa femme. Alors on verra plus tard que cela apparaîtra. Et alors il en résulte que les enfants qui naissent ne s'aiment pas. Quel est le lien? Mais c'est cela que la Torah va nous indiquer et on va le voir dans les étapes suivantes. On cherche quelle a une identité humaine capable d'être frère et on va apprendre que cette identité humaine ne peut être engendrée que du dedans de l'amour et lequel. Et l'humanité se développe jusqu'à cet échec épouvantable du déluge. Échec de la civilisation humaine, de la première tentative de l'histoire des hommes, dans cette catastrophe du déluge, où l'humanité tout entière est effacée. Et il faut garder ça en mémoire. Le texte de la Bible est d'une lucidité impitoyable. Lorsque la relation de fraternité n'arrive pas à s'installer, alors tout se passe comme si l'existence ayant perdu son sens, Dieu décide d'annuler. C'est pas complètement détruit, puisque un rescapé, Noé, va sauver avec lui une sorte de résumé de ce qui existe. Mais c'est effacé. La manière dont Mahiti, dit le texte, j'effacerai. La forme qu'avait pris l'identité humaine est inapte, elle est effacée. La matière, la homère de l'identité humaine est préservée, mais elle est remise en jeu dans l'histoire qui commence à Noé. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, il est frappant de voir que l'humanité semble être sanctionnée parce qu'elle est incapable de fraternité des frères, et c'est ce qu'indique le texte en n'employant pas le mot de ach. À partir du moment où Caïn a tué Abel. C'est étrange. Bref. Je continue. Apparaît Abraham. Vous voyez, tout se passe comme si, d'ailleurs, dans d'autres dimensions de cette identité humaine, tout se passe comme si, avec Abraham, il y a un recommencement de l'histoire. Et les sources sont nombreuses qui nomment Abraham le nouvel Adam. Adam Gadol Baranakim, une renaissance de l'identité humaine, c'est important d'entendre qu'elle est accompagnée de l'émergence, de la réémergence du mot frère-sœur, ça inonde le récit à partir d'Adam. Alors nous sommes dans tous les cas à un deuxième niveau et je voudrais essayer de formuler le progrès. Abraham et Sarah entrent mariés dans le texte. tout se passe comme si la manière dont Abraham a obtenu Sarah, la Torah a tenu à réserver cela dans une préhistoire non dite, un peu comme Adam. Et puis, la Torah ne nous dit pas que Abraham a aimé Sarah. Ils se sont certainement aimés. Mais encore une fois, la Torah n'a pas jugé bon de le dire. Et puis, il y a quand même une différence. L'époux et l'épouse se parlent. Et ils se parlent pour se dire quelque chose d'important. Le mari dit à sa femme, tu es ma sœur, et la femme reconnaît que son mari est son frère. Là, il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui porte sur la fraternité. Et ça sera donc le deuxième point de l'analyse tout à l'heure. Mais retenez déjà cette indication. Encore une fois, le point de départ est très analogue à Adam et Chava, ce qui a eu pour résultat Caïn et Abel, des frères qui ne s'aiment pas. Mais là, il y a un progrès. Abraham et Sarah se parlent. Ils se parlent pour se dire l'essentiel de la relation de fraternité entre l'époux et l'épouse. Le résultat est deux fils d'Abraham. Ils ne s'aiment pas. Et nous portons ce problème encore jusqu'à présent. Ishmaël d'un côté, Isaac de l'autre. Mais l'un n'arrive pas à tuer l'autre. Ainsi, à l'échelle individuelle, il y a des assassinats. Et le Midrash est plein de cette plainte que Dieu lui-même se fait. Il y a des passages lucides dans le Talmud. Il y a un certain nombre de choses que Dieu a regretté de créer. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu regrette ? Une de ces choses s'appelle Ishmaël. Je ne peux rien, c'est écrit. Okay ? Mais puisqu'il existe, il existe. En tout cas, Ishmaël n'arrive pas à tuer Isaac. Jusqu'à présent, ce que je disais. Il y a des assassinats à l'échelle individuelle. C'est faux de dire que tous les Arabes sont des assassins de Juifs. C'est faux. Mais c'est vrai de dire que dans le temps que nous vivons, les assassins de Juifs sont des Arabes. Et c'est ce problème. Mais, en fin de compte, Ishmaël n'arrive pas à assassiner Isaac, mais il ne se parle pas. Vous avez remarqué ça? Tout le monde parle dans la Torah. Même le Satan parle. Ishmaël ne dit pas un mot. Et vous remarquerez que maintenant encore, il ne veut pas nous parler. Vous avez remarqué ça? Ça arrivera un jour. Et ça, c'est un problème en soi. Mais oui, il y a quand même un progrès. Et le point de départ des parents est assez ressemblant, mais changement radical. Il y a dialogue entre Abraham et Sarah. Et puis, il y a donc deux fils. Et ils ne se tuent pas, mais ils ne se parlent pas. Allez, il y a progrès malgré tout, mais ce n'est pas résolu. On passe plus loin. Isaac et Rebecca. Alors, Isaac et Rebecca, il y a quelque chose de nouveau. Là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et là, on voit que Isaac et Rebecca se parlent pour se dire « ma sœur, mon frère ». Et c'est là que ça réussit. C'est le troisième épisode que j'analyserai assez rapidement tout à l'heure. Mais le texte, le rabbin l'a rappelé, le texte dit que Isaac a aimé Rebecca. Selon le verset ajoute « et il se consola de sa mère ». Vous vous rappelez du verset? C'est-à-dire que ce n'est pas encore trop tard. Et « aharimo ». S'il y a des psychologues parmi vous, vous comprenez de quoi il s'agit. Okay? C'est clair? Non. Mais il en résulte qu'il y a deux fils, Ésaü et Jacob. Et Ésaü et Jacob se parlent au niveau de la rivalité, qui est le véritable hébreu, qui est le véritable Israël. Et comme vous le savez, dans la typologie traditionnelle talmudique et midrashique, la civilisation qui a réalisé le génie d'identité d'Ésaü, elles savent, c'est la chrétienté. Et il faut mettre en évidence le fait que, de la même manière que dans le récit biblique, celui qui n'est pas Jacob mais qui se prétend être Israël, c'est Ésaü. Dans l'histoire, celui qui n'est pas le peuple juif mais qui se prétend être Israël, c'est bien l'Église, c'est bien Rome. Et que nous vivons cette problématique d'identité à travers l'histoire et jusqu'à notre temps où elle est en train de se résoudre. C'est un autre sujet. Eh bien, là encore, il y a un progrès. C'est que les frères se parlent, mais ils se séparent. Ils se séparent, rendez-vous à la fin des temps. C'est un passage de Malachi, qui décrit qu'à la fin des temps d'exil, Ésaü sera jugé par Israël sur la montagne de Sion, et on saura qui a été Ésaü. Le procès Eichmann est un exemple de ce dont parle Malachi. À Jérusalem, on a jugé ce qui a été issu de la civilisation de Rome dans sa réclamation d'identité Israël. Si je me permettais un affreux jeu de mots, Bilen d'ailleurs, tout le monde a su qu'était Eichmann. Ech en hébreu c'est comment, et man en anglais c'est homme. Comment cet homme peut être un homme? Eichmann. Donc, la prononciation allemande étant Eichmann, et Eichmann, vous savez que ça veut dire l'homme du feu. Bon, c'est des coïncidences, je ne sais pas comprendre. Mais en tout cas, il y a eu, si vous voulez, un flash de notre temps, de ce que disait Malachi. Rendez-vous à la fin des temps. Donc, la troisième génération, c'est Jacob et Rachel. Or, à propos de Jacob et Rachel, quelque chose réussit. Le verset dit, voyez, Ab, Yaakov et Rachel. Et Jacob aima Rachel. Un point. Alors est né Joseph. Joseph, qui est précisément le frère aîné qui aime ses frères, et ce qui avait commencé, cette catastrophe qui avait commencé avec Caïn et Abel, trouve sa rédemption avec Joseph et ses frères. Et c'est là que s'achève le récit de la Genèse, c'est là que commence l'histoire d'Israël, et c'est là que l'humanité embraye sur le message messianique prophétique de la fraternité et de la recherche de la paix à la manière de la descendance d'Abraham. Je résumais là assez rapidement une histoire extrêmement dense, mais simplement pour surtout qu'elle nous est racontée par la Bible et éclairée par le Midrash, simplement pour vous indiquer la cohérence de cette histoire. L'identité hébraïque est porteur de la capacité d'être frère. Il faut arriver à l'engendrer d'Abraham à Joseph, efforts successifs, mais qui vont laisser comme une sédimentation de rivalité par les approximations de rivalité qui sont les faux frères dans cette famille d'Abraham. J'aborde ce dernier point de la première partie, les faux frères. Eh bien, les faux frères, ils sont très nombreux. Je vais essayer de vous les décrire autour d'Abraham, et nous allons essayer de les identifier autour de nous, avec le postulat suivant. Si nous sommes Israël dont parle la Bible, alors les personnages qui nous entourent et qui nous interpellent de rivalité dans notre histoire sont bien les personnages dont la Bible parle. Est-ce que le principe est clair? Je vous donnerai un petit exemple, celui qui est le plus direct pour nous aujourd'hui. Si vraiment nous sommes Israël dont parle la Bible, alors Ishmaël est aussi Ishmaël dont parle la Bible. Et pour comprendre nos problèmes entre Israël et Ishmaël, c'est pas chez des idéologues, futiles théologues, qu'il faut aller chercher, c'est dans la Bible qui nous raconte notre histoire. J'ai toujours étonné négativement de tant d'hommes qui se prétendent avoir foi dans le récit biblique, au point qu'ils pratiquent la Bible, la loi de la Bible, mais qui chaque fois qui sont interpellés par des problèmes historiques concernant l'histoire de notre peuple et d'Israël, ferment la Bible et ont des convictions personnelles. Alors ça vous fait le parti un tel, le parti un tel, le parti un tel, le parti un tel. Est-ce que c'est clair la question que je pose, Ken? Et alors c'est très étonnant que nous ayons une tradition, une loi, qui aurait des réponses précises sur des questions doctrinales et, comment dit-on en français, de halakha, et de pratiques religieuses très précises, jusqu'au détail le plus infime, et qui, pour les grands problèmes, l'histoire d'Israël et son sens, et l'histoire de la rivalité avec ses interpellations de rivalité, n'auraient aucun message alors qu'elle la raconte, et qu'il faut aller chercher des convictions dans des opinions personnelles. Est-ce que vous avez compris la portée de ce que je viens de dire? Donc, en tout cas, je reviens au sujet. Eh bien, nous allons prendre l'histoire dans une deuxième relecture à partir d'Abraham. Je vais essayer de schématiser cela, vous me direz si c'est suffisamment clair. Nous allons voir que le personnage principal de cette histoire d'engendrement depuis Abraham jusqu'à Joseph, en passant par Isaac et Jacob, est entouré d'autres personnages dans le récit biblique. Je vais essayer de schématiser ça comme ça. D'un côté, les rivaux qui sont ennemis, dont l'objectif est d'annuler cette identité hébraïque qui cherche à réémerger dans l'histoire humaine. De l'autre côté, les rivaux qui veulent remplacer Israël, les faux frères, comme je vais les appeler. Alors on commence à la première génération, Abraham. L'histoire d'Abraham est accompagnée de deux personnages, parmi d'autres d'ailleurs. L'un est Nimrod. Nimrod, c'est le chef, le tyran, le Hitler, si j'ose dire, de la civilisation de Kasdim, celui qui jetait les Hébreux dans le feu.